أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق
l'amoureux sincère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur parfait, l'imam de l'époque, le Messie et le Mahdi qui est venu selon ses prophéties et qui a été envoyé par Dieu après une longue période d'obscurantisme, nous a accordé d'innombrables faveurs et jamais nous ne pourrons assez remercier Dieu pour ses faveurs. La meilleure façon de le remercier, c'est d'étudier les écrits et les dires de cet envoyé de Dieu, de méditer à ce sujet et de faire en sorte que ses paroles et ses dires fassent partie intégrante de notre vie. Dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré « Kounou Mara Sadiqin »« Soyez parmi les véridiques » Nous voyons l'exemple le plus sublime de ce verset à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont profité de sa compagnie, lorsqu'ils ont vécu en sa présence, ils ont profité de sa présence et nous ont transmis les directives du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont évoqué ces réunions en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous ont transmis ses conseils. Ensuite, il y a la deuxième période, c'est-à-dire la période de l'avènement de ce serviteur parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis à l'Islam dans ses nombreux ouvrages a évoqué la beauté du Saint-Coran et l'islam. Et ainsi, il a prouvé au monde la supériorité de l'islam. Il avait fait lui aussi plusieurs réunions avec ses compagnons. Il y avait des petites réunions, il y avait aussi de grandes réunions. Il avait aussi fait des discours au cours des Jalsa. Tout cela n'est pas préservé dans ses ouvrages. Ses compagnons ont profité de sa présence. Ils ont profité des bénédictions de sa personne.
In majalis ko
Les journaux de la communauté à l'époque ont préservé les récits de ces réunions. Chanceuses sont ces personnes qui ont profité de la compagnie de l'imam de l'époque, des personnes qui ont suivi ce commandement du Saint-Coran, Kunum Sadiqin. Nous devons être reconnaissants envers ces personnes qui étaient présentes, ces personnes qui lui ont posé ces questions et les personnes qui ont préservé tout cela en écrit. Grâce à ces personnes, aujourd'hui, après 100 ans, nous pouvons lire et entendre ces paroles du Messie promis. Et l'on peut ramener à l'esprit les réunions organisées autour du Messie promis et l'imam al-Mahdi, le serviteur parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc ressentir ce qui se passait autour de lui. Aujourd'hui, je vais évoquer des conseils concernant la prière, les supplications et la relation avec Dieu. Des conseils qu'il a prodigués au cours de ces réunions. Au cours de la Jalsa de 1907, le Messie promis alayhi salam a fait un long discours. Il a déclaré au cours de ce discours que l'on doit se souvenir du fait que Dieu a évoqué des prières au début et à la fin du Saint-Coran. Le Saint-Coran a débuté avec une prière et se termine avec d'autres prières. Cela veut dire que l'homme est faible et sans la grâce de Dieu, il ne pourra se purifier. Tant qu'il ne jouit pas du soutien de Dieu, il ne pourra pas progresser dans le domaine de la vertu. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète a déclaré que tous sont morts, sauf celui à qui Dieu accorde la vie. Tous sont des égarés, sauf à ceux à qui Dieu accorde la direction. Tous sont aveugles, sauf ceux à qui Dieu accorde la vision. Tant qu'on ne jouit pas de la faveur de Dieu, l'on ne pourra pas se débarrasser du joug de ce bas monde. L'amour de ce bas monde sera toujours accroché à son cou. Seul celui qui profite de la grâce de Dieu pourra se débarrasser de ce joug. Mais on profite de la grâce de Dieu uniquement par la prière. Pour profiter de la grâce de Dieu, on doit se tourner vers Dieu et le supplier. Afin de se débarrasser des pensées et des chuchotements au cours de la prière, le Messie promis les salam déclare, c'est quoi cela? Dire « Ehdina Surat al-Mustaqim » par la bouche alors qu'au cœur, l'on est en train de penser à propos de son commerce. On est en train de se dire « Je dois faire ceci, je dois faire cela ». Et que je devais faire ceci ou cela. Si vous agissez ainsi au cours de la prière, vous serez en train de perdre votre temps. Tant que vous n'accordez pas prééminence au livre de Dieu et tant que vous ne suivez pas les préceptes de Dieu, vous allez perdre votre temps dans la salat. Et pour cela, vous allez devoir prier. Il y a un incident qui a été rapporté par le deuxième calife. Il est dit qu'il y avait un vieux qui est parti prier dans une mosquée. Et l'imam qui dirigeait la prière pensait à propos de son commerce au cours de la prière. L'imam s'est dit que je vais partir à Amritsar, ensuite je vais partir à Delhi pour vendre ce bien. Je vais faire du profit, ensuite je vais partir à Calcutta et je vais faire du profit là-bas. Ce vieux priait derrière cet imam et le vieux a quitté la prière et a commencé à prier séparément. Dieu l'avait informé dans une vision ce qui se passait dans le cœur de l'imam. Les autres s'en sont plaints à l'imam. On lui a dit que le vieux a quitté la prière pour prier séparément. L'imam lui a dit « Pourquoi cela? Pourquoi as-tu abandonné la prière? C'est là un grand péché ». Le vieux lui a répondu que moi je suis très faible, je suis vieux. Vous avez commencé à voyager d'Amritsar. Ensuite, vous êtes arrivé à Calcutta et vous deviez partir à Bukhara. Mais moi, je ne pouvais pas faire un si long voyage avec vous. Voilà donc l'état de ceux qui dirigent la prière dans certains cas. Dans un discours prononcé en 1906, le Messie premier l'Islam déclare : c'est quoi la Salah ? C'est une supplication qu'on accomplit avec ferveur étant affligé. Voilà le sens de la Salah. Salah signifie ressentir une affliction, une ferveur. On implore Dieu avec ferveur en lui demandant de nous débarrasser de nos mauvaises intentions, en lui demandant de remplacer ses mauvaises pensées par son amour. La Salah signifie que seules les paroles ne suffisent pas. Ces paroles doivent être accompagnées d'ardeur et de désarroi. Dieu n'écoute pas les prières tant que le suppliant ne se retrouve pas au seuil de la mort. Supplier Dieu est quelque chose de difficile et les gens ignorent cela. Bon nombre de personnes m'écrivent pour me dire que nous avons prié pour ceci, pour cela, mais ces prières n'ont pas été exaucées. Ainsi, ces personnes commencent à entretenir des doutes à propos de Dieu. Ils sont poussés au désespoir et sont poussés à leur destruction. Tant qu'on ne respecte pas les conditions de la prière, ces supplications n'auront pas d'effet. Une des conditions de ces supplications et que le cœur doit fondre, l'âme du suppliant doit couler devant le seuil de Dieu. En son cœur, il doit ressentir ce grand désarroi. L'homme ne doit pas être impatient. Il doit faire preuve de persévérance et ne cesser de prier. C'est ainsi que ses prières seront exaucées. Le Messie premier l'Islam déclare que la Salah est l'apogée de la supplication, mais malheureusement, les gens ignorent cela. Les gens pensent que la Salah signifie se mettre debout, se courber, se prosterner par habitude. La Salah, selon eux, c'est répéter quelques paroles comme un perroquet, que l'on comprenne ces paroles ou pas. Le Messie promis déclare : face à la Salah, nous n'avons pas besoin d'autres innovations. La Salah est une faveur et nous n'avons pas besoin d'autres pratiques innovantes. Lorsque le saint prophète était en difficulté, lorsqu'il voyait un malheur, il se mettait debout pour prier. Notre expérience à nous et l'expérience des saints du passé démontrent qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se rapprocher de Dieu que la Salah. Lorsqu'on se met debout pour la prière, on le fait par respect. Lorsqu'un esclave se tient devant son maître, il croise ses bras. Ensuite, il se courbe. C'est là une autre forme de respect. Et la prosternation est la plus grande forme de respect. Quand l'homme se rapproche de son anéantissement, c'est là qu'il tombe en prosternation. Mais malheureusement, il y a ceux qui veulent modifier la Salah, des personnes qui critiquent les prosternations et ses génuflexions. La Salah est la perfection. Tant que l'homme ne profite pas de ce monde, tant que l'homme ne profite pas de ce monde dans lequel la Salah atteint son apogée, il ne possédera rien. Celui qui n'a pas de certitude en Dieu n'aura pas de certitude dans la Salah. Ensuite, le Messie promis al-Islam a déclaré : je veux tout simplement dire que l'on doit implorer Dieu avec ardeur. On doit lui demander de nous accorder ce plaisir dans la Salah, tout comme il nous a accordé du plaisir dans des fruits et dans d'autres mets. Qu'il nous fasse goûter au plaisir de la Salah. Quand on a consommé quelque chose de succulent, on s'en souvient. Si on regarde quelque chose de beau, on s'en souviendra. Si l'on regarde quelque chose de déplaisant, on s'en souviendra quand on aura cela à l'esprit. S'il n'y a pas de relation, l'on ne se souviendra de rien. Voilà la situation de ceux qui considèrent la salat comme une obligation. Ils pensent qu'il faut se lever le matin alors qu'il fait froid, il faut quitter son confort, il faut laisser de côté ses plaisirs. En fait, ces gens ne comprennent pas cela. Ces gens ignorent les plaisirs que l'on tire de la salat. Donc, comment pourront-ils tirer plaisir de leur salat? En 1906, alors qu'il prodiguait des conseils, le Messie premier l'Islam a cité un exemple. Il déclare que Jésus-Christ nous a présenté un très bon exemple concernant les supplications. Il déclare qu'il y avait un juge qui n'était pas équitable. Matin et soir, il se vautrait dans ses plaisirs. Il y avait une femme qui avait un procès à intenter et cette femme frappait tous les jours à sa porte et demandait au juge de rendre justice. Elle n'a cessé de frapper à la porte du juge jusqu'à ce que celui-ci soit contraint de rendre son verdict et il lui a accordé ce qui lui était dû. Le Messie promis à l'Islam déclare : Dieu n'est-il pas plus capable que ce juge ? N'est-il pas capable d'exaucer vos prières ? N'est-il pas capable de vous accorder ce qui vous est dû ? On doit faire preuve de patience en priant. Le moment de l'exaucement viendra certainement, la condition est la patience et la persévérance. Ailleurs, le Messie promis à l'Islam a déclaré qu'il n'y a aucun avantage d'accomplir la salat par tradition. Dieu lui-même a maudit de telles personnes qui prient ainsi. Et certainement, leurs prières ne seront jamais exaucées. Dieu a déclaré « Wailul lil musallin ». Cela concerne ces personnes qui ignorent la réalité de la salah. Les compagnons du saint prophète Mohammed maîtrisaient la langue arabe et ils comprenaient ce qu'ils lisaient dans la salah. Mais il est important pour nous de comprendre l'essence des paroles de la salah et de tirer plaisir de la salah. Mais ces gens-là croient qu'un autre prophète est venu et qu'il a abrogé la salah. Au lieu de comprendre la réalité de la salah, les autres pensent que la salah n'est qu'une coutume. Ils pensent qu'un nouveau prophète est venu et qu'il a donné de nouveaux commandements. Le Messie promis l'Islam déclare qu'il n'y a pas d'avantage pour Dieu en la salah. Le bien se trouve ici pour l'homme, à savoir Dieu lui accorde l'occasion de se présenter devant lui, il lui accorde l'occasion de présenter ses doléances. Ainsi, il arrive à se libérer de grandes difficultés. Je m'étonne de voir ces gens qui, matin et soir, ignorent l'existence de Dieu. Ces gens mourront aujourd'hui ou demain. Le Messie promis al-Islam déclare que je vous prodigue un conseil important. Si seulement les gens pouvaient comprendre cela. Le temps est en train de passer. Laissez de côté vos négligences. Soyez humbles. Suppliez Dieu dans la solitude afin que Dieu préserve votre foi, afin qu'il soit content de vous. En mars 1907, dans une réunion, on a évoqué une brouille entre deux compagnons du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a prodigué plusieurs conseils. Il a parlé aussi à ce sujet et il a déclaré que les prières ne seront pas exaucées tant que le cœur n'est pas pur. Si vous avez de l'antipathie à l'égard de quelqu'un, en raison d'une affaire de ce bas monde, eh bien, sachez que vos prières ne seront pas exaucées. a déclaré que cette antipathie, ces rancœurs, cet égocentrisme trompeur vous détourne de Dieu. Débarrassez-vous de cette antipathie, de ces mauvaises qualités. Car si vous nourrissez cette rancœur et cette rancune, vos prières ne seront pas exaucées. Le Messie promis, alayhi salam, déclare : comprenez cela, n'ayez point de la rancœur à l'égard de quelqu'un concernant les affaires de ce bas monde. Le monde et les choses qu'il contient n'ont aucune importance. Il ne faut pas avoir de l'animosité envers quiconque pour le monde. Le matin, le Messie promis l'Islam faisait sa marche et il était des fois accompagné de ses disciples. Lors d'une marche qu'il a accomplie en 1908, il y a eu une longue conversation. Il a déclaré au cours de cette conversation que certaines personnes écoutent par une oreille et font sortir ses conseils par l'autre. Ces conseils n'atteignent pas leur cœur, même si on les conseille constamment. Ces conseils n'ont pas d'effet sur eux. Sachez que Dieu est indépendant. Tant qu'on ne le supplie pas, tant qu'on n'est pas animé d'une détresse sincère, il ne va pas se soucier de vous. Lorsque votre épouse ou votre enfant est malade, ou si l'on vous intente un procès, vous serez dans une très grande détresse. Tant que les prières ne sont pas accompagnées de cette détresse sincère, ces prières n'auront pas d'effet. Ces prières seront futiles. Cette détresse est une condition pour l'exaucement des prières. Tout comme il a été dit, « Amma yujibu al-mustarra, idha da'ahu wa yakshifu sur » qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque, qui est celui qui enlève le mal. C'est Dieu qui exauce ses prières. Dans une réunion tenue à Lahore, où il y avait aussi des non-Ahmadis, le Messie premier l'Islam a fait un long discours. Il a parlé à propos de la prière. Il a déclaré que l'islam signifie que l'homme doit vivre selon les desseins de Dieu. Mais l'homme ne pourra atteindre ce niveau par soi-même. Il n'y a pas de doute que l'homme doit certainement faire des efforts. L'homme doit certainement faire des efforts, mais la prière est le moyen le plus sûr pour atteindre cet objectif. L'homme est faible. Tant qu'il n'est pas soutenu par ses supplications, il ne pourra pas parcourir cette étape difficile. Dieu lui-même a évoqué la faiblesse de l'homme. Il a déclaré que l'homme a été créé faible. Dieu a déclaré que l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible. En raison de cette faiblesse, l'homme ne pourra clamer qu'il pourra atteindre le niveau le plus élevé par sa seule puissance. Pour atteindre ces niveaux élevé, on aura besoin de la prière. La prière est une grande force grâce auxquelles l'on arrive à résoudre de grandes difficultés, grâce auxquelles l'on arrive à parcourir des étapes très difficiles. La prière est cette artère qui attire les grâces de Dieu. Celui qui supplie Dieu constamment attire en fin de compte cette grâce divine. Cette personne jouit du soutien de Dieu et atteint son objectif. Mais Dieu ne désire pas uniquement la prière de votre part. Vous devez en premier faire des efforts. Vous devez faire de votre mieux et vous devez le supplier. Se contenter de la prière sans utiliser les moyens à votre disposition démontre l'ignorance concernant la prière. C'est comme si on est en train d'éprouver Dieu. Se contenter uniquement des moyens et considérer la prière comme un exercice futile est l'athéisme. Comprenez certainement que la prière est un grand trésor. la foi et le temporel de celui qui n'abandonne pas la prière ne sera pas frappé de malheur. Il se trouve à l'intérieur d'une forteresse qui est surveillée matin et soir par des soldats armés. Quant à celui qui néglige la prière, il est comme celui qui est sans armes, celui qui est faible et qui se trouve dans une jungle qui est remplie d'animaux féroces et dangereux. Il comprend très bien que sa vie est en danger. Il peut à tout instant être victime de ces animaux féroces qui pourront faire disparaître jusqu'à ses os. Que l'on se souvienne que le bonheur de l'homme et sa protection résident dans la prière. C'est cette prière qui sera sa protection s'il ne cesse de supplier Dieu. Dans une autre rencontre à Lahore, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit se corriger moralement. Ensuite, grâce aux supplications, on doit acquérir l'amour de Dieu. On doit se corriger. Ensuite, grâce à la prière, on doit faire des efforts pour acquérir l'amour de Dieu. On doit éviter toute forme de péché et de vice. On doit se débarrasser de toute impureté interne. On doit se transformer en une goutte d'eau limpide. Tant qu'on ne passe pas par cet état, l'on sera toujours en danger. Avec la prière, l'on ne doit pas abandonner les efforts, car Allah aime aussi les efforts. Et Dieu a cité les plans et les efforts dans le Saint-Coran. Lorsque vous allez prier afin de parcourir cette étape, lorsque vous allez faire ces efforts, lorsque vous allez profiter de cette compagnie et lorsque vous allez mettre de côté ces entraves, lorsque vous allez prier sans aucun artifice, quand vous n'allez pas prier par tradition, vous serez témoin de l'exaucement de vos prières. Certaines personnes commettent l'erreur de prier pour quelque temps pour abandonner ensuite la prière en disant que nos prières n'ont pas été exaucées, alors que ces personnes ne se sont pas acquittées de leur devoir envers la prière. Comment ces prières pourront être exaucées? Si une personne est affamée ou assoiffée, mais qu'elle se contente d'une bouchée ou d'une goutte d'eau et se plaint en disant que je ne suis pas rassasié, va-t-on accepter ses doléances? Certainement non. Tant qu'il ne mange pas ou ne boit pas à satiété, il ne pourra pas se débarrasser de sa faim et de sa soif. Telle est l'analogie de la prière. Si l'homme prie constamment, s'il respecte les conditions de la prière, s'il prie au moment opportun, un jour il va atteindre son objectif. Des centaines de personnes sont mortes parce qu'elles se sont arrêtées en cours de route. Elles se sont égarées. Des centaines de personnes s'apprêtent à mourir sur cette voie. Si vous abandonnez cette voie, vous allez vous égarer. Ceux qui se sont engloutis dans les vices de la tête jusqu'aux pieds ne profiteront pas de ces prières de quelques jours. Il y a ensuite l'orgueil, l'arrogance, il y a l'ostentation qui sont autant de maladies qui réduisent à néant leurs œuvres. Une bonne œuvre est à l'instar d'un oiseau. Si on l'apprivoise et on l'enferme très bien, l'oiseau ne partira pas. Sinon, il s'envolera. L'on ne peut pas acquérir ces qualités sans la grâce de Dieu. Allah déclare: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Bonnes œuvres ici signifient des actions qui ne sont pas ternies par le mal. Il faut que ces actions soient nobles, des actions exemptes d'orgueil, d'arrogance, des actions exemptes de fierté, des actions exemptes de motifs ultérieurs. Et l'on ne doit pas non plus placer d'espoir en quiconque. On ne doit pas non plus avoir d'attente concernant le paradis ou l'enfer. On doit tout simplement nourrir un amour sincère à l'égard de Dieu. Les motifs ultérieurs sont une forme de polythéisme, car ce genre d'amitié ne repose sur rien. Cette amitié repose sur une tasse de thé ou sur des choses futiles. Le jour où la personne concernée verra un autre comportement en son ami, elle se détournera de son ami. Ceux qui se lient avec Dieu afin d'avoir des richesses, afin d'avoir des enfants ou afin d'avoir du succès dans tel ou tel domaine, ces relations entre ces gens et Dieu sont temporaires et leur foi est tout le temps en danger. Le jour où ils seront blessés dans leur dessein, le jour où ils vont subir des pertes, le jour où leurs désirs ne seront pas réalisés, ce jour-là, leur foi sera affectée. Le vrai croyant est celui qui ne rend pas culte à Dieu en se soutenant à quelque chose. Il ne rend pas culte à Dieu sous certaines conditions. En août 1904, à Lahore, le Messie premier Islam a déclaré « Il y a beaucoup qui acceptent l'existence de Dieu par la parole, mais si on examine de près, l'on constatera qu'ils sont en fait des athées. Quand ces personnes se consacrent aux choses de ce bas monde, elles oublient la colère de Dieu et la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important de demander à Dieu sa connaissance. Sans la certitude dans la foi ne sera pas parfaite. On acquérera cette certitude lorsqu'on comprendra que couper toute relation avec Dieu signifie la mort. Pour éviter les péchés, on doit d'une part prier, mais d'autre part, on ne doit pas abandonner les efforts. On doit prier pour éviter les péchés et on doit aussi prendre des mesures à ce sujet et on doit éviter toutes ces rencontres qui poussent vers le péché. C'est quelque chose de primordial, surtout pour les jeunes. Ils doivent éviter toutes ces rencontres, toutes ces choses futiles qui les poussent vers le péché. Et l'on doit aussi prier. Et l'on doit comprendre que sans le soutien de Dieu, l'on ne pourra pas se libérer des malheurs qui sont liés avec la vie de l'homme. Voilà ce qui a été indiqué dans la Salah. La Salah, accomplie 5 fois par jour, nous protège de cela. Si on ne protège pas la prière de la concupiscence et des motifs ultérieurs, cette Salah ne sera pas sincère. Salah ne signifie pas se frotter le nez, faire des mouvements par habitude. La Salah est quelque chose que le cœur doit ressentir. L'âme doit couler sur le seuil divin. Et on doit être imbu de crainte de Dieu. Dans la mesure du possible, on doit créer en soi cette angoisse. On doit implorer Dieu en toute humilité, afin de se débarrasser de ses péchés, de cette vanité. Voilà les salats qui sont exaucés. Si la personne concernée est persévérante, elle constatera qu'un jour ou une nuit, une lumière descendra sur son cœur et elle va se débarrasser de son nafsé amara. Un serpent venimeux possède un poison. La nafsé amara est un poison. Celui qui l'a créé possède aussi son antidote. C'est-à-dire, Dieu a créé l'âme et on doit demander à Dieu de nous accorder la possibilité d'éviter ses péchés. C'est Dieu qui possède l'antidote des péchés, mais on doit le demander en toute sincérité, en faisant des efforts. En 1904, dans une réunion où il y avait des nouveaux convertis, le Messie promis a prodigué ses conseils. Il a déclaré que l'homme doit prier en faisant son examen de conscience constamment. Est-il enclin vers ce monde ou est-il enclin vers la foi? Est-il en train de prier pour avoir le confort de ce bas monde ou est-il en train de prier pour servir la foi? C'est quelque chose d'important. Êtes-vous plus enclin vers le monde ou vers la foi? Quelle est la mesure à utiliser? Le Messie promis déclare que quand vous êtes en train de prier, priez-vous pour les conforts de ce bas monde ou êtes-vous en train de prier pour la religion? Si vous constatez que matin et soir, vous ne vous souciez que des choses de ce bas monde et que vous n'avez pas comme objectif la foi et la religion, vous allez devoir vous lamenter sur votre situation. Si vous ne vous souciez que de ce bas monde, si vous n'avez pas de tristesse concernant votre situation, vous allez devoir vous lamenter. Il y a nombre de personnes qui s'échinent afin d'acquérir les choses de ce bas monde. Les gens prient en ce sens. Et en fin de compte, ces gens sont frappés de toutes sortes de maladies. Certains sont frappés de folie. Mais si vous agissez pour la foi, Dieu ne vous laissera jamais partir à la perdition. Les paroles et les actions sont comme une graine. Si on vous donne une graine et si vous ne l'utilisez pas, cette graine sera ravagée par des charançons. Si l'on se contente de faire des discours et s'il n'y a pas d'action, ces discours aussi vont disparaître. C'est pour cette raison que l'on doit faire des efforts. Vous devez faire des efforts constamment. Si vous plantez cette graine va pousser. Mais si vous la laissez, elle sera avariée, les charançons vont la consommer. En janvier 1908, le Messie premier alayhi salam a présenté le sens de la supplication. Il déclare qu'il y a deux types de supplications. Il y a des supplications ordinaires. Il y a aussi ces invocations que l'on pousse à l'extrême. Voilà le sens véritable du terme « dua ». L'homme doit prier même s'il n'est pas en difficulté. Il ne doit pas attendre qu'il soit en difficulté pour commencer à prier. Même dans des situations ordinaires, il doit prier car il ne connaît pas les intentions de Dieu. Il ne sait pas ce qui va se passer demain. Il doit commencer à prier afin qu'il soit protégé par Dieu. Dans certains cas, lorsqu'il est frappé de malheur, l'homme n'a même pas le temps de prier. S'il avait prié auparavant, cette prière lui aurait été d'un recours quelconque en ce moment difficile. Voilà donc l'importance de la prière. Au cours d'un discours, le Messie premier Islam a déclaré que les membres du corps d'un être humain, ses deux mains, ses deux pieds, se soutiennent les uns les autres. C'est là l'exemple de l'homme. L'on s'étonne comment il ne comprend pas le verset « Ta'awanu alal birri wa taqwa ». L'homme possède deux mains, deux pieds. Il possède un corps et chacun des membres de son corps soutient les autres membres de son corps. C'est le même sens que l'on trouve dans le verset « Ta'awanu alal birri wa taqwa ». On doit aussi chercher les moyens par l'entremise de la prière. Si vous voulez les choses de ce monde, vous allez devoir aussi prier. Le corps de l'homme est régi par un système mis en place par Dieu. Et je suis en train de vous indiquer cela, mais vous êtes en train de me rejeter. Dieu a envoyé des prophètes afin de faire comprendre cela aux hommes. Si le désir, Dieu pourrait ne pas accorder de soutien à son prophète. Mais à un moment donné, ces prophètes sont contraints d'annoncer « Man Ansari ilallah ». Ces prophètes sont-ils en train de mendier à l'instar des indigents? Non, il y a certainement une gloire qui accompagne cette annonce « Man Ansari Ilallah ». Ils veulent tout simplement montrer au monde comment utiliser les moyens. Lorsque les prophètes annoncent « Man Ansari Ilallah », cela ne veut pas dire qu'ils ont besoin de quelqu'un. Mais ils font cela tout simplement pour enseigner certaines choses aux hommes. C'est là une partie de la prière. Sinon, ils ont foi parfaite en Dieu. Ils ont la certitude quant à l'exaucement des promesses de Dieu. Allah a déclaré « Inna la lansuru rusuluna walladhina amanu fil hayati dunya ». Ils savent que certainement cette promesse va se réaliser. Si Dieu lui-même n'insuffle pas dans les cœurs des gens qu'ils doivent venir en aide aux prophètes, ils ne viendront pas à son aide. Le véritable soutien est celui à propos de qui on dit « Ni'mal Mawla wa ni'mal Wakil wa ni'mal Nasir ». Le monde et son soutien ne sont pas plus importants que des cadavres. Afin de faire comprendre aux hommes l'importance de la prière, Dieu leur indique cette voie. Et ces prophètes considèrent Dieu comme leur seul soutien. Allah déclare « Wahuwa yatawallu salihin ». Allah envoie les prophètes afin qu'ils montrent ses œuvres par l'entremise des autres. Notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses compagnons de lui venir en aide à différentes occasions. C'était en fait le moment du soutien de Dieu. Le Messie premier al-Salam déclare que la prière est comme cette source d'eau pure auprès duquel est assis le croyant. Il peut s'y désaltérer quand il le désire. Un poisson ne peut vivre sans eau. L'eau du croyant est la prière. Sans la prière, sans les supplications, il ne peut exister. Le moment le plus opportun pour ces supplications est la salat, au cours de laquelle il ressent un grand plaisir. Celui qui s'adonne à ces plaisirs libertins ne peut ressentir une telle allégresse. La plus grande chose que l'on acquiert grâce à la prière est la proximité de Dieu. C'est grâce à la prière que l'on se rapproche de Dieu et Dieu l'attire vers lui. Lorsque le croyant prie en toute sincérité, lorsqu'il se coupe de ce monde, Dieu aura pitié de lui, Dieu deviendra son ami. Si l'on médite sur sa vie, l'on constatera que sans le soutien de Dieu, la vie est amère. Lorsqu'on arrive à maturité, l'on comprend où se trouvent ses avantages et ses désavantages. Et c'est là que débute une longue période d'échecs et de déboires. L'homme essaie d'éviter ses déboires et ses échecs. Il le fait grâce à sa richesse. Il le fait grâce à ses relations. Il le fait aussi grâce à ses subterfuges. Lorsque débutent les malheurs et les déboires, l'homme utilise ses richesses s'il les possède afin d'éviter ses déboires et ses malheurs. S'il a des relations avec des personnalités bien placées, il utilise ses relations. Ou il essaye de tromper les autres, il use de subterfuges. Il utilise ces moyens afin de se trouver une issue de sortie. Mais il arrive difficilement à trouver une issue de sortie. En fin de compte, il est poussé au suicide. Si l'on compare les déboires des gens de ce bas monde avec les difficultés que subissent les gens de Dieu ou les prophètes, l'on constatera que ce qu'endurent les gens de ce monde ne sont rien face aux difficultés des prophètes. Ces malheurs n'accablent pas les gens pieux. Cela n'affecte pas leur béatitude. les prophètes et les awliya font face à des difficultés, mais cela n'affecte pas leur tranquillité. Car ils se tournent vers la prière et jouissent du soutien de Dieu. Si une personne a de bonnes relations avec un juge bien placé et que celui-ci lui a garanti qu'il viendra à son aide lorsqu'il sera en difficulté, cette personne sera moins accablée que les autres lorsqu'il fera face à ses difficultés, lorsque son affaire sera entre les mains de ce juge. Le croyant qui a une relation encore plus ferme avec le plus grand des juges, comment peut-il être en désarroi face à ces difficultés? Si une partie infime des malheurs qui frappent les prophètes frappait leurs adversaires, ils n'auraient pas pu survivre. Lorsque les prophètes viennent pour réformer l'humanité, le monde tout entier se transforme en leur ennemi. Des centaines de milliers de personnes sont assoiffées de leur sang. Mais même leurs ennemis ne peuvent affecter leur quiétude et leur tranquillité. Si vous avez un seul ennemi, vous ne pourrez pas vous protéger un seul instant de ses méfaits. Alors que dans le cas des prophètes, des pays tout entiers se transforment en leurs ennemis, et ces prophètes vivent en toute quiétude. Ils supportent ces malheurs sans broncher. Cette endurance en soi est un grand miracle. Voyez la persévérance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un autre miracle parmi ces centaines de milliers de miracles. Le pays tout entier s'est soulevé contre lui. On lui a tenté par des richesses, par des honneurs, par des épouses, afin qu'il cesse de proclamer que nul n'est digne d'être adoré à part Dieu. Mais le saint prophète a tout simplement répondu que s'il agissait selon ses propres désirs, il aurait accepté tout cela. Il a déclaré que je suis en train d'agir selon le commandement de Dieu. Et il a enduré toutes ses souffrances. C'est là un miracle des plus grandioses. Cette endurance découle des prières accomplies par le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les prières des prophètes réduisent en néant les attaques cruelles de leurs ennemis. Hadrat Umar était sorti un jour pour tuer le saint prophète. Vous avez entendu parler à propos de cela. Abu Jahl avait soulevé le peuple en disant que celui qui tuera le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevra de grandes récompenses. Umar a fait un pacte avec Abu Jahl avant d'embrasser l'islam. Il avait fait ce pacte afin de tuer le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il cherchait le moment le plus opportun pour le tuer. On a dit que le saint prophète partait prier dans l'enceinte de la Kaaba au milieu de la nuit. Et Hadrat Umar radhiyallahu anhu a attendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enceinte de la Kaaba au milieu de la nuit. Il a entendu ces paroles « La ilaha illallah ». Hadrat Umar a fait l'intention de tuer le saint prophète lorsqu'il va se prosterner. Lorsque le saint prophète s'est prosterné, il a commencé à implorer Dieu dans un grand désarroi. Il a commencé à louer Dieu et ses paroles ont affecté le cœur de Hadrat Umar. Il a perdu son courage. Ses mains meurtrières ont perdu leur force. Après avoir terminé ses prières, le saint prophète est parti et Umar l'a suivi. En le voyant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Umar, ne vas-tu pas cesser de me suivre ?» Hadrat Umar radhiyallahu anhu avait peur des prières du saint prophète. Il a dit que « Je ne veux pas vous tuer. Ne me maudissez pas, ne priez pas contre moi. » Et Hadrat Umar a déclaré que ce fut la première nuit lorsque j'ai ressenti l'amour pour l'islam en moi. Le Messie premier l'Islam déclare au cours d'une conversation que l'ennemi critique mes paroles et mes actions en raison de son hostilité, car son cœur s'est perverti. Celui dont le cœur s'est perverti ne peut voir que les ténèbres autour de lui. Le sot déclare que le Messie promis est assis quelque part et il ne fait rien. Mais il ne comprend pas qu'il a été dit à propos du Messie qu'il ne va pas se battre avec l'épée. Il n'a pas été dit que le Messie va prendre l'épée entre ses mains et il n'a pas été dit qu'il va se battre. Il a été dit que les mécréants mourront par le souffle messianique, c'est-à-dire il va tout accomplir par ses prières. Si je savais qu'il sera d'un avantage quelconque pour moi de sortir, je ne serais pas là assis pour une seule seconde. Mais je sais très bien que marcher dans les rues ne servira à rien. Et tout ce que nous pourrons accomplir se fera par la prière. Il y a une grande force dans la prière. Il y avait un roi qui était sorti un jour pour conquérir un pays. En cours de route, il a rencontré un mendiant qui a arrêté son cheval. Il lui a dit « N'avance pas, sinon je vais me battre contre toi ». Le roi était tout étonné. Il a dit que « Tu n'es qu'un mendiant, comment pourras-tu te battre contre moi ?» Le mendiant a déclaré que « Je vais me battre contre toi grâce à la prière du matin ». Le roi a déclaré que je ne pourrais pas m'opposer contre toi et contre ses prières, et il est retourné. Il y a une grande force dans la prière. Dieu m'a informé, grâce à ses révélations, que tout ce qui se fera va se passer grâce à la prière. Notre arme, c'est la prière, et nous n'avons pas d'autre arme. Dieu va montrer ce que nous demandons. Dans le passé, Dieu a châtié les ennemis par l'entremise de ses prophètes. Dieu sait très bien que nous sommes faibles. C'est pour cette raison qu'il a pris entre ses mains notre responsabilité. C'est la seule voie à suivre pour l'islam. Mais les mollahs et les philosophes ne peuvent comprendre cela. Si on devait se battre, Dieu nous aurait accordé les moyens pour ce faire. Lorsque nos prières vont atteindre leur point culminant, les menteurs vont disparaître. L'ennemi au cœur noir déclare que moi, je me contente de dormir et de manger. Mais selon moi, il n'y a pas d'arme plus efficace que la prière. Chanceux est celui qui comprend cela, qui comprend que Dieu va accorder du succès à la foi par cette voie. J'ai donc présenté quelques exemples concernant la prière. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre l'importance de la prière, que nous puissions traduire ces conseils de la pratique, que nous puissions tout le temps avoir comme objectif Dieu, que nous puissions avoir comme objectif son plaisir, que nous soyons dans le bonheur ou dans le malheur, que nous prosternons tout le temps devant Dieu, et que nous comprenons l'importance de ces prosternations, que nous comprenons l'esprit avec lequel nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam, que nous puissions comprendre nos responsabilités à ce sujet. Ce sont là de grandes responsabilités. Chacune de nos actions, chacune de nos paroles doivent être consacrées à Dieu. Que Dieu nous accorde la force pour ce faire, que nous puissions accorder préférence à la foi et que nous puissions prier en ce sens. Les attaques des ennemis de l'Ahmadiyya sont de plus en plus virulentes. Priez aussi pour la protection de la Jamaat. Qu'Allah retourne les complots de l'ennemi contre lui. Qu'il protège à chaque instant la Jamaat. Allahumma inna naj'aluka fi nururihim wa na'udhu bika min shururihim. Ô Allah, nous te prenons comme protection contre l'ennemi et nous demandons ta protection contre leur méchanceté. Rabbi inni mazlumun fantasir. Mon Seigneur, j'ai été traité injustement, venge-moi. Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. Ô mon Seigneur, toutes choses te sont soumises. Accorde-moi ta protection. Aide-moi et aie pitié de moi. Le Messie premier, l'Islam, a évoqué une autre prière. Rabbi tawaffani musliman walhaqni bis-salihin. Ô mon Seigneur, donne-moi la mort en tant que musulman et réunis-moi parmi les justes de la mort. Fasse que nous soyons tout le temps parmi les salihin. Qu'Allah exauce nos prières. Et que nous puissions marcher sur les voies sur lesquelles désirait le Messie premier l'Islam que nous marchions.